Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler du collectif des arts de la table. Alors l'art de la table, c'est vraiment une grande tendance dans notre univers déco, vous n'avez pas pu y échapper. Toutes ces jolies tables qu'on peut voir en photo, sur Instagram ou dans les magazines, qui nous inspirent, qu'on a envie de reproduire quand on reçoit, ou même au quotidien. Tous ces chefs et ces restaurants qui font attention autant au contenu qu'au contenant, et toute cette jolie vaisselle qu'on peut voir dans les boutiques, eh bien c'est tout ça que défend le collectif des arts de la table, qui a pour ambition donc de promouvoir et de valoriser la filière française des arts de la table. Grandes marques, créateurs indépendants, artisans et détaillants passionnés, ils sont tous unis d'une même voix pour faire rayonner leur savoir-faire et leurs produits, mais aussi pour vous inspirer. Tous les mois, le collectif des arts de la table vous propose une nouvelle tendance qui vous donne plein d'idées sur les matières, les couleurs et les formes du moment, et bien sûr une sélection de produits de marque française que vous pouvez donc retrouver sur leur site lesartsdelatable.fr ou sur leur compte Instagram @lesartsdelatable. Allez, place à l'épisode maintenant. Si vous écoutez Le Club, vous savez déjà que Tikamoun est partenaire de l'émission pour toute l'année. Et j'en suis ravie parce que c'est vraiment une belle marque, engagée et durable. 80% de leurs meubles sont en bois massif, ce qui permet de les réparer plutôt que d'en acheter d'autres, de les recycler, mais surtout, ils sont solides et ils peuvent traverser les générations. Ce même bois est évidemment sourcé et travaillé par des artisans. Chaque meuble est construit en assemblage traditionnel, ça veut dire qu'il est monté par un ébéniste. Il n'est pas collé, pas vissé, monté sans quincaillerie, comme un Tetris. Il n'y a pas non plus de superflu, ce qui permet d'économiser les ressources. Il n'y a pas de gâchis, le peu qui tombe par exemple pendant la coupe est réutilisé pour autre chose. Ils ont le label FSC, évidemment, et leur méthode est reconnue par tout un tas d'organismes officiels, que je ne connais pas bien. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a leur site internet, bien sûr, tikamoun.com, ou désormais deux boutiques, une à Paris, une à Lille. Tout ceci étant dit, maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans Le Club, une émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de trois chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Club, un peu spécial aujourd'hui parce qu'on enregistre avec du public, c'est un enregistrement en live pour la première fois. Alors vous ne les entendez pas mais je vais vous les faire entendre. Bonjour à toutes, bonjour les filles.
Il faut préciser qu'il n'y a que des filles. Hein.
Oui, je dis bonjour les filles parce qu'il n'y a que des filles. Ouais. Et bonjour les filles, bonjour Violaine, bonjour Marie, bonjour Billy.
Salut Hortense.
Salut Hortense.
Comment ça va? Nouvel environnement, c'est la première fois qu'on enregistre en public, ça va?
Ouais, ça va, on est hyper émus.
On est un peu stressés.
Nous sommes à la Casa Saudad. Alors j'en ai parlé une fois parce que Saudad, c'est une marque qui a été fondée par Christelle Rastero. J'avais déjà fait un épisode avec elle. J'ai regardé, c'était en mai 2021, si vous voulez retrouver l'épisode. Saudad, ce sont des tapis de yoga, voire des tapis de méditation, des poufs sur lesquels nous sommes toutes assises, même des sets de table fabriqués à partir de matériaux recyclés, donc en grande partie issus de l'industrie textile et tissés à la main par des artisans portugais. Ce ne sont donc que des belles valeurs et de beaux produits évidemment, donc un grand merci à Christelle de nous accueillir. C'est un lieu qui est ouvert au public évidemment, on est au 76 rue Le Mercier au Batignolles dans le 17e.
Alors, à Paris bien sûr.
À Paris bien sûr, désolée. Alors, on parle de quoi aujourd'hui ? Marie Farman, journaliste spécialisée en design, va vous proposer un super sujet sur tous ces designers et artistes contemporains qui se consacrent aux arts de la table.
C'est ça.
Billy Blanquette, journaliste déco qui partage toutes ses jolies photos dans sa newsletter du vendredi et sur Instagram, va nous parler de nettoyage de printemps. C'est bien
ouais,
ça?
Du méga tri qu'on peut faire à cette période-là et par lequel je viens de passer.
Génial. Et enfin, ou plutôt on commence avec Violaine Delcroix, directrice artistique, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant et co-animatrice du mouvement 8 médias avec Mozinique. Je n'arrive pas à faire plus court pour te présenter.
Désolée.
Non, c'est très bien. Va nous parler du compost.
Oui, moi je parle des déchets, c'est vachement moins glamour, mais bon, comme tu parles ménage, c'est bon.
Oui, c'est bien. Et qu'on est chez Saoudade et c'est du...
Et du recyclage.
Ouais, oui, c'est donc, bien.
C'est vrai que j'ai pas de papier aujourd'hui, mais c'est parce que c'est un sujet que je connais bien, parce que je le fais depuis longtemps. Et je vois dans la presse, le compost est obligatoire, etc. Je vois pas trop ce que ça change dans la vie, en tout cas ici à Paris et tout ça. Donc je me suis quand même un petit peu renseignée pour savoir... Comment on allait vous aider à le faire, parce que pour l'instant, on est bien tout seul en face de son truc. Et surtout, je voulais vous dire que le compost, c'est le truc le plus facile de la transition écologique. C'est génial. C'est plus facile que la lessive, plus facile que de se passer de Zara, plus facile que tout. On fait ça en 3 secondes. Et donc, là, aujourd'hui, les communes sont obligées de vous aider à le faire. Mais bon, Paris, c'est très grand, donc c'est pas demain la veille que vous aurez de l'aide. Donc, je voulais vous donner un petit peu les tips pour composter chez soi ou dans une collectivité, à voir comment vous voulez l'organiser. Donc, déjà, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. C'est que le compost, c'est super, mais à la base, ce qui est très bien, c'est de ne pas jeter du tout. Donc, quand on fait du tri, on recycle.
Mais oui.
Non, mais je t'ai
fait, justement.
J'en suis sûre. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'on se dit, oui, alors on compose, hop, c'est super. J'ai recyclé dans le bac jaune, hop, c'est super. Bah non. En fait, tout ça, après, c'est énergivore et on a besoin d'eau, d'énergie pour recycler votre brique de lait. Voilà, c'est du boulot, etc. Donc, c'est pas parce qu'on jette que, par miracle, oui, ça sort de chez vous, mais en tout cas, c'est quand même une empreinte sur la planète.
Juste, Violaine, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le compost ?
Le compost, justement, c'est... Donc, c'est, on va dire... je suis pas chimiste, hein, parce que c'est un procédé chimique et organique qui fait que vos déchets issus des végétaux et parfois animaux se réduisent et se retransforment en terre. Ça redevient de la terre. Bon voilà, c'est mes mots.
Donc c'est l'action de quand t'es dans ta cuisine, que t'épluches tes légumes, etc. Tu gardes la peau. Tu vois, moi j'y connais rien, donc c'est pour ça que ça m'intéresse.
Ça, en fait, composter, c'est mettre les épluchures dans un endroit clos pour qu'elles se désintègrent et qu'elles se transforment en une matière hyper concentrée en nutriments que tu peux remettre dans tes plantes, dans ton pot, etc. Mais après, toi, oui, effectivement, il faut que tu les collectes. Donc, pour composter dans un appartement, il vous faut un petit seau. Je ne sais pas si certaines d'entre vous compostent chez elles, mais il vous faut un petit réceptacle dans la cuisine pour pouvoir mettre tes épluchures, etc. Et ensuite, tu as 3 grandes façons de composter. Soit tu compostes dans des petits bacs sacs, fais ça, c'est un petit compost de balcon ou de fenêtre. Il n'y a pas de verre de terre, il n'y a rien. Et c'est le manque de lumière, enfin tu vois, c'est le manque de lumière et la chaleur qui fait que ça se décompose et que ça se composte. Donc ça, c'est la première façon.
Ça sent pas mauvais.
Alors, le compost,
non, mais
ça sent pas mauvais.
Il y a des vers dedans, quoi.
Parce que là,
non, elle dit qu'il n'y a pas de vers dans ceux-là.
Non,
enfin, il y a des vers.
Dans celui-là, il
n'y
a pas de vers, mais les vers, ça sent pas mauvais. Hein. Les
filles, ça sent pas mauvais, mais bon.
Désintègre tout ça.
Non, les vers, ça sent pas mauvais, ça aère la tête. Bon, bref, il y a ça. Mais si vous aimez pas du tout les vers, ça, c'est bien. Il peut y avoir de temps en temps quelques moucherons, mais promis, vraiment pas beaucoup. Et je vous donnerai personnellement la recette pour enlever les moucherons.
Petit moucheron.
Mais je te jure, toi en plus t'as un extérieur.
Mais moi j'ai envie de le faire, ça m'intéresse.
Et surtout tu réduis tes poubelles, c'est hallucinant. Parce que juste il faut savoir quand même que tes épluchures, quand tu fais ta cuisine, si tu ne les as pas utilisées en bouillon, en chips, d'épluchures de carottes et autres pesto, ces épluchures-là, si tu les mets dans le sac poubelle où tu les mets, donc ce sac poubelle est fermé, il est récolté et ensuite il est enseveli, brûlé. Donc, enfin, je veux dire, c'est une hérésie de mettre des épluchures de carottes dans un sac plastique qui va être brûlé avec du carbone, enfin, du pétrole. Mais ça, c'est de la faute de, c'est pas de notre faute en fait, c'est de la faute de cette société qui nous amène à des hérésies. Voilà, maintenant, trouvons des solutions.
Le compost, ce sont que des épluchures ou ça peut être autre chose?
C'est que des végétaux. Alors, pour le lombricompostage, ce sont que des végétaux. Avec les vers, que des végétaux, sauf l'ail et les épluchures de pommes de terre et les épluchures d'oignons. Facile à retenir. Trois. Rien. Le petit d'appartement, là, bac sac, ça, tu peux tout mettre. Je te conseille pas de mettre de la viande et du fromage.
Hein? Rapport aux odeurs.
Parce qu'en fait, c'est ça. La viande et le fromage se compostent aussi, mais beaucoup plus longtemps et ça attire les rongeurs. Donc, il vaut mieux pas le faire.
Des petites souris.
Voilà. Ouais. Donc ça, tu le fais pas.
Non.
Mais en revanche, il y a des entreprises maintenant. Il y en a une, je crois, près de Clermont-Ferrand, qui fait du compost à, tu vois, grande échelle, qui récupère tout dans les cantines, etc. Eux, ils compostent des os, de la viande, mais eux, c'est sur des terrains. Ils s'en fichent d'avoir des rongeurs. Toi, dans ton appart, c'est pas le but, tu vois. Donc, pour l'instant, on commence par les épluchures. Étape 1.
Épluchures. Tu veux pas des petits vers et des rongeurs chez toi,
non?
Pour les enfants,
les vers,
ça peut les amuser.
En revanche, les vers, je vous jure que c'est rien.
Moi, j'ai déjà les couches de ma fille qui sentent fort.
Bah, c'est pire la couche que le verre. Non, vraiment, les verres, c'est rien.
Quand tu mets des couches, des vraies couches, tu pollues. Ah. Alors.
À chaque fois, voilà, c'est comme ça et il faut être, tu sais, nickel, nickel. Bon, bref. Et donc, vous avez soit le compostage d'appartement comme ça, soit le lombricompostage. Donc, vous pouvez acheter des verres que vous allez mettre, donc il y a un site par exemple qui s'appelle La Ferme du Mota, et moi j'avais fait ça dans un immeuble à Paris, donc vous allez motiver tous vos voisins, s'ils sont sympas, vous leur dites il y a une place dans la cour, vous rajoutez une poubelle que vous achetez, à 5-6 familles c'est un investissement de 70 €, donc c'est pas non plus énorme, mais il faut avoir une place physique dans votre copro pour qu'il y ait une poubelle, ça ressemble à une poubelle classique, et à l'intérieur il y a un réceptacle où vous mettez vos ordures, puis là il y a du substrat avec des vers que tu vois, hein. Je vous mens pas, vous allez les voir, parce que parfois ils aiment pas un truc qui sorte. Bon, moi, franchement, je détestais ça. J'ai hyper peur des serpents. Je déteste les limaces et les vers de terre, c'est OK. Donc, je sais pas. Je dis juste que ça peut être un pas que vous pouvez faire. Après, il y a des lombricomposteurs d'appartement. Ça, c'est un peu plus technique parce qu'ils sont dans votre cuisine. Mais il y en a qui sont super bien faits. Et tous les designers se sont mis au sujet. Je sais pas si t'as vu, mais il y a quand même des jolies
choses. C'est à toi qu'on parle. Quand on parle designer, c'est pas à moi. Hein. C'est...
Ouais,
moi, on me parle des verres, mais toi, on parle des designers.
Mais
design.
Non, t'as l'exemple concret, là.
T'exagères. Donc voilà. Et ensuite, il y a un dernier truc qui s'appelle le bokashi. Alors, excusez-moi, là, j'ai noté quand même un truc, parce que j'ai l'air de rien faire, mais je travaille. Activateur de bokashi, donc ça, c'est les Japonais qui compostent comme ça. Et en fait, tu mets toutes tes épluchures dans un récipient fermé. Il vaut mieux acheter des récipients, faut pas faire trop de récup sur le sujet. J'ai essayé, c'est foireux. Donc, en fait, vous mettez vos épluchures, et là, on met un activateur. C'est du son de blé. Donc, c'est quelque chose d'assez naturel, mais que vous achetez avec votre petit composteur. Et là, ça fermente beaucoup plus rapidement. Et donc, vous aurez du compost plus rapidement. Et alors après, vous allez me dire, oui, mais j'en fais quoi, moi, de ce compost? J'ai un demi-yucca qui meurt tout le temps, etc. Et bien, justement, c'est là où vous pouvez, où les communes peuvent créer des collectes. Si vous n'avez pas du tout envie de vous occuper, vous n'avez pas la main verte, vous en fichez, c'est pas grave. Tu récoltes tes ordures et tu vas les déposer dans un point de collecte dans ton quartier. Et normalement, vraiment, d'ici 6 mois, 1 an, il va y en avoir beaucoup plus. Là, c'est le début, donc forcément, voilà.
Parce que sinon, ça devient quoi concrètement?
Bah, c'est ce que j'allais dire.
En fait, tu as deux choses. Moi, par exemple, je le fais, mais je le fais. C'est un compost qui descend dans la terre. Donc là, j'ai une espèce de terre grasse et mouillée, pas sale.
Ouais.
Voilà, que je mets quand je fais des plantations.
D'accord,
donc, ce qui est casse-pied, c'est que tu le mets pas au-dessus de tes plantes, tu le mets en dessous de tes plantes.
Ah,
donc, il faut quand même, il y a une petite manip,
etc. Et ça fait que les plantes.
Ouais, ça, c'est
un bon
pour eux, c'est quand même du collagène. Hein. Ils sont super contents.
Ah, là,
ouais,
ça...
nickel. Meilleur que la chirurgie
moi,
esthétique.
Moi, j'ai plus de plantes seulement dans mon jardin à cause de mon chien, alors je fais comment?
Mais non, mais si, quand même, t'as des 2-3 trucs.
Plus grande chose.
Pour les chiens, j'ai pas de solution. Mais en tout cas, vous pouvez composter. Donc, t'as cette espèce de terre assez grasse. Si vous en voulez pas, bah, vous la mettez, je sais pas moi, dans un square ou dans un truc. Enfin, je trouve ça idiot de se dire, je vais quand même mettre mes épluchures. Enfin, c'est pas idiot, mais je veux dire, pourquoi ne pas quand même avoir cette substance qui est magique? Et surtout, il y a plein de gens qui la veulent. Un mec qui a une terrasse au dernier étage, je sais pas moi, quelqu'un qui vit plus loin qui a un jardin. Enfin, vous pouvez trouver des façons de faire. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et surtout, vous réduisez mais drastiquement vos poubelles. Parce que quand vous faites une soupe avec un chou-fleur et un machin, tu sais, t'as ta poubelle remplie de trucs en deux minutes. Là, vous réduisez vraiment drastiquement vos poubelles, les poubelles normales. Et il y a un autre site dont je voulais vous parler qui s'appelle Circle. Eux, ils fabriquent des composteurs d'appartements. Alors, il y a des composteurs potagers, il y a des seaux, il y a des trucs à enterrer, il y a plein de façons de faire, mais tout en terre cuite, fabriqué en France, c'est assez joli. Et ils ont un compte Instagram où vous pouvez suivre plein de... Ils expliquent pourquoi il faut pas jeter, par exemple, les verres de poireau parce que ça fait du pesto ou je sais pas quoi. Donc déjà, ils militent un petit peu pour ne pas jeter du tout. Et ensuite, ils ont ces composteurs qui proposent. Bon, c'est un petit investissement. Et après, si on ne veut pas investir, il y a Leroy Merlin, Nature et Découverte. Enfin, il y a des trucs mais pas chers du tout.
Il me semble que la mairie aussi peut en fournir.
Et la mairie, moi, normalement, exemple, mais ils te l'ont donné?
Bah, je ne l'ai pas demandé, mais oui, je crois qu'elle y est. Oui, oui. Je crois que...
On va remplir la demande.
Oui, oui, on va remplir la demande.
Non, mais oui, effectivement, il y a des communes qui le donnent, mais je ne sais pas à Paris ce qu'ils proposent. Je pense que ça dépend des arrondissements aussi. En tout cas, composter, c'est vraiment super. C'est très facile. Vous n'êtes pas obligé de faire les vers de terre. Vous pouvez aussi faire soit le truc japonais avec le ferment qui va plus vite, soit le faire tout simplement. Et le backsack, il est hyper petit. Hein. Il y en a un qui est comme ça. Vous roulez, c'est comme un sac à dos étanche qu'on roule comme ça, on clipe, vous le mettez sur un petit balcon et au bout d'un moment, vos restes de soupe, etc., vous pourrez les mettre dans votre jardinière.
Mm-hmm. Super. On va faire un petit sondage. Il y en a qui compostent dans le public?
Oh là là,
ah,
là,
quand là, même, la moitié.
Bah, résultat des courses, ma chronique était toute nulle.
Ah ouais, bravo.
Bah non, t'es pas, c'est bien.
Bah non, c'était bien,
tu nous as sensibilisé. En plus, ça va être obligatoire, c'est ça l'idée?
Bah oui, mais en fait, la loi, elle est un peu, tu sais, c'est comme toujours, c'est-à-dire, vous êtes obligé, la commune est obligée de t'aider, mais toi, t'es pas obligé de le faire. Donc bon, au bout d'un moment.
Ah oui. Ok, merci beaucoup Violaine. Marie, c'est à toi. Tu as ton micro qui a sorti au haut.
Alors j'ai mon micro, j'ai des notes moi, parce que je suis moins à l'aise que toi.
Non, tu travailles plus peut-être.
Je sais pas. Alors, moi, tu m'entends bien?
Et ben moi, je t'entends très bien.
Ok, d'accord. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de tous ces designers et artistes contemporains qui se consacrent aux arts de la table. Donc, les arts de la table, tous ces objets du quotidien qui sont à la fois fonctionnels et décoratifs et qui composent un service de table. Donc, ça peut être tout, des verres, des couverts, des théières, des carafes, des coupelles, des seaux à champagne. Bref, tout ça. Et beaucoup de ces designers et artistes se spécialisent dans ce domaine et leurs créations sont vraiment pensées comme des bijoux de table. Donc ça peut être des objets qui sont très oniriques, des ustensiles revisités, des objets de curiosité. On peut les utiliser bien sûr pour tresser une jolie table, mais aussi pour les exposer comme des œuvres d'art, les accrocher au mur, les encadrer. Voilà, faire vraiment détourner l'objet utilitaire. Donc un certain nombre de designers sont d'ailleurs initialement des créateurs de bijoux qui divergent petit à petit vers les arts de la table. On remarque qu'il y a vraiment un lien très fort entre ces deux domaines. Donc ils sont inspirés par ces rituels simples du quotidien. Leurs objets ont pour intention soit d'être très poétiques, soit de nous surprendre, soit d'être singuliers et vraiment de changer notre rapport à la table où on passe, c'est vrai, beaucoup de temps. Donc vraiment, le bijou de table, c'est comme un nouvel apparat. Et d'ailleurs, c'est un phénomène ou une tendance, on peut dire, qu'on a beaucoup vu notamment au dernier salon Matter & Shape qui a eu lieu à Paris au début du mois de mars. C'est un nouveau rendez-vous qui célèbre la création contemporaine et il y avait effectivement beaucoup de stands de designers qui présentaient des objets d'art de la table liés à l'univers du bijou, soit pas. Et on y a découvert quelques merveilles, n'est-ce pas, Hortense?
Tout à fait. On était ensemble, c'est pour ça.
Alors d'abord, je vais vous faire un petit bref rappel historique, mais vraiment pas grand-chose, c'est juste pour raccrocher un peu la tendance. Les arts de la table, ça a une place hyper importante dans l'histoire du design. Il suffit d'aller dans n'importe quel musée qui est consacré aux arts décoratifs. Moi, je pense à celui de Paris parce que c'est un très beau musée avec des très belles collections d'arts de la table. Et là, on voit que dès le 21e siècle, les designers s'intéressent au sujet, mais vraiment en réinventant ces objets, que ça soit avec des nouveaux matériaux ou des formes qui sont moins conventionnelles. C'est un vrai domaine d'expression et qui est assez passionnant pour un designer ou pour un artiste parce que ça parle effectivement de nos habitudes alimentaires, mais aussi notre façon de recevoir. Et je voulais vous parler ce matin d'un exemple notamment qui a marqué l'histoire de l'art. peut-être que vous le connaissez, qui s'appelle le, je sais pas si j'ai pris la photo avec moi, qui s'appelle le Déjeuner en fourrure de l'artiste suisse Merete Oppenheim, qui elle a fait en 1936. Donc c'est un petit nécessaire de petit déjeuner avec une soucoupe, une tasse et une petite cuillère qui sont entièrement recouverts de fourrure de gazelle. Donc quand on le voit comme ça, on est hyper attiré parce que ça a l'air hyper doux. On a envie de le toucher. Donc elle remet vraiment en question ici nos sens, mais aussi l'utilité initiale de ces objets du quotidien que finalement on voit tous les jours sans les voir. Et donc c'est une œuvre qui a vraiment marqué l'histoire et qui est d'ailleurs au MoMA, exposée au MoMA à New York depuis. Alors ces accessoires d'art de la table, dont s'emparent aujourd'hui beaucoup de designers, vous l'aurez compris, sont aussi des objets, je trouve, avec lesquels on peut se faire plaisir. Alors là, je vous parle de création en édition limitée, voire en pièce unique. C'est pas des grandes séries industrialisées. C'est des objets fonctionnels qu'on peut effectivement exposer ou comme des petites œuvres d'art. Enfin, on en fait ce qu'on veut, on peut en utiliser quelques-unes, mais souvent, c'est pas très très pratique. Donc on peut se faire plaisir surtout parce que c'est beaucoup plus accessible financièrement que s'acheter du mobilier. Et petit à petit, on peut se faire une petite collection sympa sans se ruiner. Et on peut commencer par les cuillères en bois. Alors a priori, c'est un ustensile qui est assez banal, mais il y a plein de designers qui adorent cuisiner.
Peut-être, aussi.
Aussi, ça m'étonne. Travailler les cuillères en bois. Le premier qui a fait ça, qui a vraiment fait de la cuillère en bois un objet de désir, c'est le designer français Ferréol Babin, qui au départ sculptait des cuillères pour lui dans son atelier. Et puis un jour, il les poste sur son compte Instagram, et là, c'est l'emballement. Son carnet de commandes ne désemplit pas, il en vend dans le monde entier. Et elles sont sculptées dans différentes essences de bois. Il est vraiment passionné par ce sujet. C'est à la fois assez brutaliste et délicat. Il y a plein de formes, plein de fonctions. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur son site, il y a une rubrique qui s'appelle Spoon, où on peut un peu voir tout ce qu'il fait. Il y a une autre artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Alessandra Williams, qui est anglaise, enfin en tout cas elle est installée en Angleterre. Et elle s'inspire de l'artisanat africain et propose des grands couverts sculptés à la main, soit en bois de jacaranda, donc un bois assez noir, soit en pierre de jaspe léopard, c'est un vert profond, assez subtil, dans un esprit qui, on peut dire, assez ethnique contemporain. C'est des grands couverts qui font à peu près 35 cm. Donc, ce n'est pas des couverts dont on va se servir pour mélanger sa salade. C'est plus des couverts qu'on va... moi, par exemple, j'en ai, je les ai accrochés au mur. Elle fait aussi des plats et des bougeoirs. C'est joli.
C'est des tailles de couverts à salade, non ?
Quoi ?
C'est des tailles de couverts à salade, non ? 35 cm, non ?
C'est grand, quand même.
C'est un peu grand.
Non, mais là, c'est en bois. Bon, c'est...
Bon, bref.
Je ne vais pas les utiliser, mais après, si okay. Vous voulez. Et c'est pas excessivement cher, je trouve. Donc là, je vous parle des cuillères en bois, mais ça peut être les couverts dans sa globalité qui sont réinventés, réinterprétés, transcendés par ces designers et artistes contemporains. C'est aujourd'hui un exercice auquel beaucoup se prêtent et ça devient vraiment des petites sculptures, notamment les couverts à salade, mais aussi les cuillères de service. Parce que je pense que c'est des formats qui sont plus grands, où on peut avoir plus d'imagination et se laisser... on peut faire des grands formats, on peut donner des formes qui ne sont pas vraiment utiles. Et je vous ai sélectionné deux exemples que j'aime bien. Alors, un bijoutier portugais, justement, qui s'appelle Sebastião Lobo, alors je ne sais pas si je prononce bien, qui fait de magnifiques couverts en laiton ou en argent avec des lignes très libres. Il y a beaucoup d'ondulations, c'est assez... c'est minimal, c'est graphique. Pour le coup, je pense que ce n'est pas très utilisable, mais voilà, il faut juste les exposer. Il y a une autre artiste contemporaine qui s'appelle, alors elle est très très à la mode, qui s'appelle Connie Valaise, je ne sais pas exactement, qui fait aussi de la peinture. C'est vraiment une artiste qui s'est associée elle aussi avec une joaillère qui s'appelle Orit Elanati, que je ne connaissais pas, pour créer une collection de couverts en argent qui est parsemée de pierres et de petits diamants qu'elles ont baptisé jardin. Elles se sont inspirées de l'époque victorienne gothique et ça donne vraiment des couverts bijoux ornés de fleurs. C'est assez chargé, c'est très romantico, délicat, gothique. Bon, par contre, pour le coup, c'est des pièces de galerie, c'est excessivement cher, mais c'est très joli. Et c'est assez précieux parce que c'est recouvert de diamants ou de pierres précieuses. Donc ça, c'est pour un budget un peu plus élevé. Une autre typologie qu'on voit beaucoup en ce moment dans cette histoire de bijoux de table, c'est la verrerie. Alors là aussi, parfois utilisable, parfois carrément pas utilisable. Une créatrice dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est Sophie Lou Jacobsen, que vous connaissez peut-être. C'est une franco-américaine qui fait beaucoup de choses en ce moment. Elle fait notamment des ravissants verres, des verres pour boire. Elle travaille sur l'idée de poésie au quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que voilà, juste un verre peut vous émouvoir, que vous en serviez ou pas. Dans un autre style, peut-être que vous la connaissez aussi, c'est la Danoise Elle Markdal, je ne sais pas très bien comment on prononce non plus.
Ah oui, j'adore.
Qui a un univers hyper coloré, hyper onirique, elle crée des objets en verre soufflé. C'est super joyeux, c'est un brin surréaliste. Et c'est vrai que sur une table, ça envoie quand même. Mais bon, il faut aimer les couleurs. Un autre studio, donc pareil, je suis désolée, je ne sais pas comment on prononce ça, je vais dire Chclos.
Schkl.
Ça veut dire le verre en polonais.
Ça s'écrit comment?
Ça s'écrit S-Z-K-L-O. Mais je crois que c'est Schkl. Ouais,
ça... S-Z-K-L-O. Ouais.
Ça veut dire le verre en polonais, si quelqu'un parle polonais. Ah. Et donc là, c'est des verres qui sont sculptés, complètement déformés. Bon, j'en ai un là, mais il faut que je le sorte. L'idée, c'est vraiment de repousser les limites de la fonctionnalité en transformant le simple fait de boire en une vraie expérience. Après, c'est plus à exposer, je trouve. C'est vraiment, même sur une petite stèle, enfin, c'est vraiment très joli.
Tu peux boire quoi dedans?
Oh, tu peux boire de l'eau, du vin, mais bon, c'est pas hyper pratique. On se le cache pas. Et pour terminer, enfin, pas tout à fait, je vais vous parler d'un de mes coups de cœur, mais toi aussi, je crois que tu as beaucoup aimé son travail. C'est Natalia Criado. Elle propose tout ce dont on vient de parler. Des verres, des couverts, des petits objets. Elle a un travail qui est hyper délicat, qui est à la fois très intemporel et incarné. Et elle est super douée. Bref, je pense que c'est vraiment un profil à suivre. C'est une jeune femme qui est d'origine colombienne, mais qui est installée à Milan. Elle a créé sa propre marque il y a une dizaine d'années. Et elle aussi, initialement, elle fait du bijou. Mais là, on la découvre plus pour ses objets du quotidien, faits à la main. Donc, elle a plein de matières différentes, du laiton, du verre, des pierres précieuses, elle aussi, du marbre. Et sa vision, c'est de s'inspirer de l'héritage des formes précolombiennes, donc son pays d'origine, mais avec le raffinement et la précision du design italien, son pays d'adoption. Ça donne vraiment quelque chose de très élégant. Elle fait, par exemple, des petites tasses à café avec une anse en lapis-lazuli. Elle fait des couverts en laiton doré avec des formes géométriques très délicates. Elle fait aussi des petits contenants à huile d'olive. Voilà, en verre, qui sont super jolis, par exemple, mettre sur une table ou de poser ta bouteille d'huile d'olive, c'est un petit contenant. Enfin, c'est vraiment super joli. Donc, je vous conseille d'aller voir son site, son Instagram, de lui acheter des pièces si vous aimez. Mais moi, je trouve que c'est quand même, je pense, un profil à suivre.
Tu peux nous redire son nom?
Alors, elle s'appelle Natalia Criado. Et je vais vous donner aussi deux sites sur lesquels vous pouvez trouver des jolies choses. Alors, le premier, c'est The Oblist. C'est un... Alors, ils font plein de choses, mais vous tapez sur... Enfin, vous rentrez dans l'onglet Art de la table. Là, vous allez pouvoir trouver aussi les pièces de Natalia Criado et aussi du Schloco Studio, dont je viens de parler. Il y a d'autres designers, dont aussi la jeune designer que j'aime beaucoup, qui s'appelle Agustina Bottoni, qui fait aussi, elle, des très jolis verres. Il y a pas mal de sélections vintage, mais c'est pas trop le sujet, là. Mais voilà, très, très jolie chose. Un site beaucoup plus connu, un peu un site de référence, c'est bien sûr la Romaine Édition, en ce qui concerne tout ce qui est autour de l'art de la table. Donc, il y a beaucoup de verres, mais ça peut être aussi des petites cuillères décoratives, inspiré du jardin, des porte-couteaux. Il n'y a pas que des choses signées designer, parce que la fondatrice, elle source aussi des choses elle-même qu'elle produit. Mais il y a vraiment des belles choses intéressantes. Donc, pour terminer, voilà, je vous ai fait un petit panel d'exemples de choses que moi, j'aime bien. Mais il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est surtout pour vous, voilà, vous montrer cet engouement autour du bijou de table aujourd'hui. C'est un domaine où il y a vraiment plein de choses et plein de choses à faire. Et moi, j'aime bien l'idée aussi que la table, ça devienne comme une petite scène où on peut s'amuser à créer des univers, des décors oniriques et même des décors un peu surprenants. Parce que c'est vrai que voilà, ça change d'avoir un couvert dont on ne peut pas servir. Et aussi, comme je vous le disais, c'est que moi, je trouve que c'est un bon moyen de commencer à s'acheter des jolies choses de signer, pas très cher, moins cher que du mobilier, et petit à petit se faire une petite collection. Et pour vraiment terminer, on voit que c'est quand même une tendance, un phénomène de fond, parce que il y a des grandes marques de joaillerie qui commencent à s'y mettre. Par exemple, Buccellati, la maison italienne qui va présenter lors de la prochaine Design Week de Milan, dans quelques jours, quelques semaines, des objets de l'art de la table créés par la designer Patricia Urquiola, qui est une designer très connue, qui est notamment la directrice artistique de Cassina, et qui a créé toute une collection baptisée Picnic à Tahiti, d'ailleurs. En bambou et en argent. Et ils sortent ça un peu en grande pompe. Donc, ça montre aussi que finalement, les frontières entre le bijou, le design, c'est quelque chose, voilà, en ce moment, qui est assez visible et avec lesquels on peut s'amuser et voilà, et trouver des petits objets pas trop chers qu'on peut s'offrir. Contrairement à plein d'autres choses en design.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ah ouais, c'est une vraie tendance.
J'ai fini.
Merci beaucoup, Marie. Je vois qu'il y en a plein qui ont sorti leur téléphone. Alors, ça doit être pour noter tes bons plans.
Les noms
et on mettra les références.
Ouais.
J'ai vu que ça a dû dégainer du Instagram pour voir les différents comptes. Bon, Laetitia, tu étais la troisième. Donc, c'est à toi.
Termine.
Tu vas clore en beauté. On t'écoute sur le nettoyage de printemps. Ménage de printemps? Qu'est-ce qu'on
plus, moi, j'allais plus vous parler du tri, en fait.
Ah.
Enfin,
ah oui.
Du nettoyage de printemps, mais en profondeur, en fait. Ça fait assez longtemps que j'avais envie d'évoquer ce sujet, de parler de ce sujet, mais en fait, je me sentais pas du tout légitime pour le faire parce que je suis pas du tout, enfin, je suis très mal organisée et assez Bordélique, j'ai essayé de chercher un autre nom que bordélique, mais j'en trouve pas en fait.
On dit pas de gros mots dans ce podcast, bah il faut oui, que t'en trouves un autre.
Track dispersé.
Désordonné.
Voilà, ouais. Désordonné.
C'est moins fort quand même.
Bah ouais, non, mais ça parle à tout le monde, bordélique. Bon, voilà, et puis je vis avec quatre personnes qui sont pires que moi. Donc voilà, donc je trouvais pas le bon moment pour en parler. Et puis en fait, il y a 3 semaines, j'ai rencontré quelqu'un qui est d'ailleurs dans l'assistance et qui m'a tendu la main pour m'aider à... J'en pouvais plus, en fait. J'étais arrivée à un stade où je me réveillais la nuit en suffoquant. Quand je rentrais dans mon bureau, j'étouffais, j'arrivais plus à travailler. Et il fallait que je fasse quelque chose, mais j'y arrivais pas parce que je sais pas bien jeter, en fait. Hein. Manifestement, j'ai un petit problème. Donc, j'ai rencontré Claudia, qui est juste là, devant. Claudia Friot. Donc elle, son métier, elle est home organizer. Donc elle est vraiment là pour nous prendre la main et aider à voilà, partir dans un vrai tri. Et donc je me dis que c'était le bon moment pour vous parler de tout ça puisque nous sommes donc au printemps. Et voilà. Donc le nettoyage de printemps, en fait, ça existe depuis très longtemps. Parce que ça vient du monde agricole à la base. Enfin, ça vient du monde agricole. En fait, ça correspond à la fin d'une période, toute cette période où on a hiberné chez soi. Pareil pour donc le monde agricole où on laisse la place aux nouvelles récoltes. Donc on nettoie tout. Les maisons où avant on se chauffait au bois, il y avait de la poussière, de la suie. Donc on faisait un grand nettoyage de printemps. Donc on est dans un moment de l'année. Je trouvais que c'était bien d'en parler à ce moment-là parce que c'est quand même un moment où on a envie de repartir, enfin pas de repartir d'un bon pied, mais de ouais, un peu de démarrer, quoi, parce que le printemps, c'est un peu le démarrage. Voilà, on sort du tunnel, ça y est. Alléluia.
Le fameux tunnel
dont je souffre tant. Donc voilà, donc du coup, par où commencer? Donc avec Claudia, elle est venue à la maison, et comment ça se passe un vrai nettoyage de printemps en profondeur? En fait, l'idée, c'est vraiment de vous parler plus du désencombrement et de faire un tri avant tout, parce que il suffit pas de ranger. Si on range mais qu'il y a rien de trié, en fait ça n'arrange rien du tout, et en fait le bazar reste. Déjà, donc Claudia, donc elle était OK pour que je partage un peu sa méthode. Tout d'abord, il faut commencer par un peu identifier le problème. Moi, en ce qui me concerne, effectivement, je ne dormais plus, donc il y avait un vrai problème. J'arrivais plus à travailler, surtout j'arrivais plus à rentrer dans mon bureau. Donc déjà, essayer de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que ça me renvoie, est-ce que j'ai besoin de faire ce grand nettoyage parce que c'est moi que ça touche, est-ce que ça crée des tensions à la maison, etc., etc., ce qui peut arriver. Ensuite, il faut se fixer un objectif qui est quand même atteignable, c'est-à-dire se dire, bon bah voilà, je m'attaque à une pièce, je le fais en tant de temps et pas je vais faire ça en 2 heures. Non, on n'y arrivera pas, et donc on va baisser les bras d'entrée, et donc on y arrivera. Enfin voilà, ça n'aboutira pas. Ensuite, il faut limite le mettre. Enfin, moi, c'est ce qu'on a fait, parce que voilà, on a mis 2 jours pour le faire. Il faut limite le mettre dans votre planning, c'est-à-dire c'est de se dire voilà, je consacre tant d'heures pour faire ça, parce que voilà, ça, c'est, il faut vraiment se bloquer le truc. C'est pas à faire comme ça entre deux coups de téléphone ou j'en sais rien. Il faut vraiment bloquer le moment, et ensuite on sort une grande table et on pose tout sur la table. C'est-à-dire que donc on se dit par exemple, allez hop, je m'attaque. Alors je reprends toujours mon bureau. On s'attaque au bureau et là on prend toutes les armoires, tous les tiroirs un par un, et on prend un tiroir, on le renverse, et on prend tout. C'est très long, hein. Moi, j'ai passé un temps fou. Ça prend une énergie de ouf. C'est là qu'on se rend compte qu'on accumule un nombre de trucs. C'est ça, à la différence, en fait, on parle du monde agricole et de tout ce qu'on faisait à l'époque. On nettoyait, en fait, parce que voilà, il y avait de la suie et de la poussière. Mais maintenant, en fait, on accumule tellement de choses. C'est effarant, quoi. Dans la salle de bain, il n'y a pas 2 tubes de crème, il y en a... Ah, je sais pas, moi j'en ai énormément, en fait, entre ça, les échantillons, les trucs de chacun, les enfants, ton mec, tout ce qui s'accumule. Moi, j'ai retrouvé des tonnes de DVD, alors que j'ai même pas de lecteur DVD à la maison. Enfin,
Tu dors mieux?
Ah bah, ça, c'est... J'ai pas... Attends, faut d'abord que
ah
je
oui,
parle
pardon, pardon, excuse-moi, je voulais vite savoir. Mais...
Ah bah, ça m'a changé.
Attends, là, elle ouvre les tiroirs, on en est à... Elle ouvre les tiroirs.
Arrête, non, mais c'est pas intéressant.
Si, bien sûr. Justement,
non, mais c'est justement, alors, donc, on met tout...
Sur une table.
On met tout sur une table. Et ce que j'ai bien aimé dans cette méthode, c'est que moi, j'avais déjà fait des tris comme ça, où il fallait tout bazarder, enfin, où je bazardais tout. Et moi, en fait, j'arrive pas bien à acheter. J'ai l'impression de polluer, enfin, ce qui est le cas d'ailleurs. Donc là, un carton pour le. On donne, un carton recyclage, un carton. On jette, parce qu'il y a quand même des trucs qu'on jette, où on ne peut pas recycler. Mmh. Un carton pour éventuellement revendre, mais alors là aussi, il faut se donner quand même un petit planning, parce que sinon, tu as vite fait de tout remettre dans le carton. Oh ben non, ça, je vais le vendre, ça, je vais me gagner 10 balles par-ci, 10 balles par-là et tout, puis en fait, tu les vends jamais. Et un an après, ils sont toujours planqués derrière, dans le fond du placard, etc. Donc voilà. Donc, c'est vrai que ça prend quand même... tout ça prend... beaucoup d'énergie. Moi, j'étais claquée le soir à chaque fois parce que c'est dur de se séparer de plein de choses. Mais au final, une fois qu'on se pose la question, est-ce que je m'en sers vraiment? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je l'ai pas en double? Nombre de trucs qu'on peut avoir en double.
Et c'est en ça que c'est bien d'être deux parce que du coup, elle t'aide à prendre les décisions ou tu les as prises toutes seules, tes décisions?
Je pense qu'au final, elle m'a aidée. Dans les moments où j'y arrivais pas, c'est-à-dire que je m'étais discrètement dans le tu vois genre elle a pas vu hop je le garde et puis là elle revenait elle me dit mais attends je comprends pas ça on n'était pas censé le mettre ailleurs ça te sert vraiment ce truc là voilà donc elle me rappelait à l'ordre mais sinon je pense que j'ai été une bonne élève quand même j'en avais tellement besoin que j'ai bazardé ça m'a fait un bien fou et puis coup de bol en plus elle m'a aidé à trouver une recyclerie donc j'étais toute contente alors les pauvres je les inonde je pense qu'ils vont plus réussir à ouvrir leur magasin tellement j'arrive avec mes sacs tous les week-ends depuis mais c'est chouette de pas avoir à jeter en fait
parce que tu as commencé par le bureau et maintenant tu fais
j'ai fait le bureau ensuite j'ai fait le en fait il y avait un espèce de couloir attenant qui sert de vestiaire et en fait tout était en fait ça faisait les vases communicants donc quand c'était pas dans le bureau c'était dans le placard c'était en fait j'étais pas du tout organisée et alors en fait c'est ça c'est que une fois qu'on a trié parce que là je suis en train de partir dans tous les sens une fois qu'on a trié on nettoie un bon coup, bien évidemment. On lave tous les placards qui sont là, qui végètent depuis un temps fou. Et ensuite, il faut organiser. Et alors ça, moi, ça a été la révolution pour moi. Parce que même si ça m'arrivait, ça m'était déjà arrivé de trier, alors organiser, catégoriser par truc et tout. Mais alors ça, moi, je savais pas faire, en fait. Hein. Vraiment, moi, j'en avais partout, en fait. Un coup là, puis alors, en plus, quand t'es cinq dans une maison, les gens remettent pas à leur place les trucs.
Les gens.
Ces gens avec qui je vis.
Mais tu veux dire dans des boîtes à...
Alors, alors déjà... Moi, je sais pas, j'avais un espèce de placard où j'avais un peu d'électricité là, des ampoules là, des produits d'entretien là, les affaires du chien là, les bonnets là, les casquettes là. Enfin, bon, c'est un peu de con, hein, peut-être que je suis la seule, hein, mais moi, c'était pas du tout... Donc là, on a tout mis ensemble. Peut-être que c'est débile.
Mais ça, c'est organisé, ce que tu viens de dire. Moi, je comprends pas. Si t'as les bonnets là, les ampoules là, c'est bien.
Ah bah non,
si
parce
t'avais
que...
dit j'ai les bonnets avec les ampoules, là, il y a un problème.
Là, j'avais les bonnets à côté des ampoules qui étaient à côté des produits d'entretien. Et puis là, en fait, j'ai réassemblé l'électricité avec le machin, avec les outils, tout ça dans le même coin. Les trucs qui me servent plus souvent devant, les trucs qui me servent moins souvent derrière, les affaires de sport dans des... Alors, elle m'a trouvé en plus des boîtes. Donc ça, c'est quand même pratique. Alors, des boîtes, on peut les acheter, mais on peut aussi les recycler. Hmm? On peut trouver... Il faut faire attention à ce qu'on dit ici.
Moi, je dis jamais rien, t'exagères.
Mais non, je rigole. Non, mais on peut trouver des boîtes qu'on a, qu'on peut recouvrir de papier peint ou de. Faut essayer de faire des jolis trucs pour que quand on ouvre un placard, en fait, ça soit agréable et que. Alors, elle m'a fait mettre des petites étiquettes aussi dessus. Voilà. Comme ça, tout le monde, maintenant, peut savoir où se trouvent les bonnets, etc., etc. Donc, vraiment, voilà. Catégoriser, bien ranger, bien organiser. Et ensuite. Ensuite, alors.
On dort, on est bien.
Ah bah non, ensuite il faut maintenir. Le maintien.
Et pas remplacer parce que t'as jeté. Tu vois ce que je veux dire?
Quoi, aller chercher dans la poubelle, tu veux dire?
Non, à racheter des trucs que tu remets dans les...
Ouais, alors là, je fais hyper attention parce qu'il y a des trucs, je vois qu'il y a des trucs qui commencent à réentrer à la maison. Et là,
t'as vu, quand tu fais le tri, t'as vachement plus de mal à faire re-rentrer des trucs chez toi.
Ah bah oui.
Moi, je trouve ça hyper vertueux.
Bah oui, c'est vrai qu'en plus, quand t'es journaliste, t'as tendance à quand même recevoir des petits trucs, des petits machins. Les enfants, ils arrivent tous les jours avec des nouveaux trucs. Enfin...
C'est surtout les enfants.
Ouais, non, moi, j'ai beaucoup de trucs aussi. Donc voilà, donc du coup, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. En fait, ça, c'est une maxime qui est quand même super, que j'essaye de suivre depuis, et j'y arrive, ça fait 3 semaines. Je suis hyper contente, et c'est marrant parce que tout le monde est hyper content depuis. On est tout content de remettre les choses à leur place.
Est-ce que t'as fait ta cuisine aussi?
Ah non, alors je vais attaquer, ça c'est le prochain coup, là, la cuisine.
Gros sujet.
Ouais. Non, là, je pars un petit peu au soleil. Et après, quand je rentre, j'attaque la cuisine.
Tu vas acheter des souvenirs que tu vas remettre dans quelle
boîte?
Ah
non, il faut que je ramène rien. J'ai une boîte à souvenirs. Heureusement, elle a été gentille. Elle m'a dit, c'est ma boîte à souvenirs pour mettre tout mon bordel. Donc voilà. En tout cas, bon, alors, donc en fait, c'est pas vraiment le nettoyage de printemps du tout. Ce sujet, c'est plus le méga tri. Mais un nettoyage de printemps, ça passe souvent par un tri. Souvent, on en profite pour trier les affaires d'été, les affaires d'hiver, etc., etc. Si vous vous sentez l'âme de le faire toute seule, allez-y, foncez. Moi, ça m'a enlevé un poids, mais je n'imaginais pas à quel point ça me ferait du bien comme ça. Et après, on peut aussi, se faire aider. Donc moi, j'ai eu Claudia Frio, F-R-2-I-O, je précise, qui a un compte Instagram, si vous voulez la suivre et peut-être lui demander de l'aide. Il y a Caroline Vatelet aussi qui fait ça, avec qui j'ai écrit donc mon livre « Toi et moi », qui vient vous aider à réharmoniser votre maison par la même occasion. Il y a aussi un compte qui s'appelle « La Rangeuse », qui, alors elle, c'est vraiment
un petit peu plus strict.
Ouais, alors là, il n'y a plus rien qui dépasse. Hein.
Mais c'est genre Marie Kondo?
Ouais, un peu.
Ouais.
Ah ouais,
parce que ça...
Ouais, ça c'est pas... Moi, j'y arriverais pas.
C'est rude, je trouve.
Ouais, c'est rude, puis même la déco et tout, c'est à l'image de... Dans la cuisine.
Oui, mais c'est une philosophie de... C'est une philosophie de vie.
C'est ça,
l'écologie d'intérieur. Tu n'as pas besoin de choses matérielles pour être heureux.
Exactement.
C'est vrai.
Mais, c'est vrai.
C'est stressant, quand même.
Mais après, voilà, il y a 2 poids, 2 mesures. On n'est pas obligé d'en arriver là si c'est pas dans notre tempérament. Donc voilà. Donc, écoutez, bon nettoyage de printemps, les filles.
Et tu feras ta prochaine chronique sur la cuisine.
Ah ouais, je pourrais faire la cuisine.
Un vrai sujet, un rangement de cuisine.
Ouais. Je pourrais mettre des trucs au compost par la même occasion. Ranger mes arts de la table. Mais je sais, j'en ai pas des masses, moi, les arts de la table.
Voilà, tu vas re-remplir tes tiroirs avec ce que je t'ai donné.
Ah ouais, ça y est.
C'est toi, en fait, qui nous fait remplir.
Oui. Mais oui.
Avec un mix. Bon, merci beaucoup, les filles, pour vos sujets variés et intéressants. Merci beaucoup au public pour leur écoute attentive. Merci beaucoup.
Merci, Hortense.
Au revoir. À bientôt. Au revoir.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.